Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous Isabelle Pelletier.
Un globe-trotteur de la CCAT, c'est ainsi que Christopher Gigès qualifie Michael Forest, dont les nombreux déplacements ont une nouvelle fois été évoqués au cours de la séance hebdomadaire du gouvernement ce matin. Le monument aux morts de Païta a dégradé pour la troisième fois depuis le début des émeutes, la mairie a porté plainte. Les habitants du quartier de Tuban subissent de nouvelles exactions depuis le week-end dernier entre insultes racistes, bris de verre sur la chaussée et incendie de véhicules. Les clients reviennent dans les magasins du centre-ville faire leurs courses. Les commerçants apprécient cette bulle d'air, mais ils restent inquiets quant à l'avenir. La réouverture depuis ce matin des parcs provinciaux zoologiques et forestiers et des grandes fougères, le public a largement répondu présent. Et puis les JO, journée sans médaille hier, mais le camp tricolore espère encore en décrocher. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Michael Forest est un globe-trotteur de la CCAT. C'est l'accusation portée par certains de ses collègues au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir participé au congrès des colonies françaises à Bakou, Michael Forest était ces derniers jours en Corse, où il a participé à un rassemblement des autonomistes et des indépendantistes. Face à son attitude et en raison de ses absences répétées, certains membres du gouvernement demandent sa démission, nous a dit Christopher Gigès.
On était déjà intervenu pour dire que Michael Forest ne s'exprimait pas à Bakou au titre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et n'engageait pas le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans ses propos. Aujourd'hui, on a un deuxième souci, c'est-à-dire que Michael Forest n'est plus membre du gouvernement. Michael Forest est un globe-trotteur de la CCAT qui passe par Bakou, à Paris, à Genève, à New York, à Caracas et dernièrement à Corté. Ça fait 3 mois qu'il n'est pas en Nouvelle-Calédonie. Il n'a assisté qu'à une seule séance du gouvernement. Néanmoins, il continue de toucher sa paye et donc aujourd'hui, sa place n'est plus au gouvernement et il devrait démissionner. Il a abandonné ses secteurs. Il a abandonné le secteur de la culture, de la jeunesse et des sports. Il continue à toucher un salaire. C'est totalement irrespectueux, à la fois pour l'institution qu'il représente, mais également pour tous les Calédoniens qui souffrent aujourd'hui de la situation. Donc, après les aveux qu'il a pu réaliser à Bakou sur sa responsabilité personnelle dans les exactions, et donc la justice en tirera les conclusions à son retour en Calédonie s'il rentre un jour, mais parallèlement, il n'assume plus aujourd'hui sa fonction de membre du gouvernement et donc il n'a plus à siéger au sein de l'exécutif.
Christopher Gigès, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a demandé la démission de Michael Forest ce matin lors de la séance hebdomadaire de l'exécutif. Et il a été accompagné par les membres non indépendantistes.
Les autres membres non indépendantistes partagent cette position. On l'a défendue ensemble. Pour la question des indépendantistes, je les laisserai s'exprimer, mais on voit qu'il y a un vrai malaise. Il y a un vrai malaise sur la question de Michael Forest. Je crois que Jean-Pierre Jaïwe a été exprimé au titre du Palika. Ce qu'on voit en interne, mais je laisserai Louis Mapou s'exprimer lui-même sur ce qu'il pense, mais on travaille tous les jours avec Louis Mapou aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions sur le chômage partiel, sur le fonds de solidarité de l'État. On travaille en lien très étroit avec l'État. Et parallèlement, on a un membre du gouvernement qui va à Bakou pour dire les pires choses sur la France. Donc je crois que chacun aujourd'hui est conscient que Michael Forest est plus un représentant de la CCAT qu'un membre du gouvernement et donc il assume cette position et qu'il l'assumera ensuite devant les autorités judiciaires.
Les pérégrinations de Michael Forest qui étaient aussi le thème de notre billet d'humeur ce matin sur RRB. Stop aux mensonges de l'UC, c'est la réaction du député Nicolas Metzdorf au lendemain de la publication d'un communiqué de la commission exécutive de l'Union calédonienne qui affirmait que le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral était définitivement enterré. Jean-François Baudin.
La commission exécutive de l'UC laissait entendre dans ce communiqué que ce sont les parlementaires indépendantistes qui l'ont convaincu du retrait définitif du texte après leur entretien avec le président de la République. Le député de la première circonscription qui participait à cette rencontre avec Emmanuel Macron parle d'informations erronées. Nicolas Metzdorf écrit que, contrairement à ce qui a été affirmé, le président de la République n'a pas retiré cette révision. Il rappelle que la révision constitutionnelle a été votée par les deux chambres parlementaires, qu'elle existe bel et bien et qu'elle peut être consacrée dans la loi une fois que le congrès de Versailles sera réuni. Le président de la République ne dispose pas de pouvoir lui permettant de supprimer ou faire disparaître des textes législatifs, déclare le député de la première circonscription, qui indique que le président a seulement précisé que l'examen de cette révision constitutionnelle au congrès de Versailles n'avait pas encore été réalisé. Pour Nicolas Metzdorf, toute autre interprétation de ses propos est infondée et trompeuse. Il ajoute que le président de la République a indiqué aux parlementaires calédoniens que ce texte serait à l'ordre du jour de la réunion de septembre qu'il souhaite organiser avec l'ensemble des acteurs calédoniens. Il est essentiel pour le débat démocratique que les faits soient correctement présentés, conclut Nicolas Metzdorf, et il appelle l'Union calédonienne à cesser de propager des informations erronées et à respecter la vérité des faits.
Dans l'actualité institutionnelle, les mesures exceptionnelles en faveur de la caisse locale des retraites au menu des élus du Congrès qui sont convoqués demain en séance publique à partir de 9h. Les conseillers examineront également la décision modificative numéro 3 du budget principal propre de la Nouvelle-Calédonie. Le conseil municipal du Mont-d'Or est convoqué lui aussi demain et se réunira exceptionnellement à 10h en raison du blocage de la RP1 à hauteur de Saint-Louis. Un horaire qui devrait permettre à tous les élus et conseillers d'être présents. Alors du jour, la décision modificative numéro 1 du budget annexe eau et du budget annexe ordures ménagères. Les conseillers doivent également approuver le programme de travaux de revêtement routier sur la commune. Et puis, les permis de conduire délivrés depuis le 18 juillet avec le drapeau du FLNKS sont illégaux. C'est ce qu'affirme Génération NC, qui était à l'origine de la saisine du tribunal administratif de Nouméa sur cette question, Gilles Ménage.
Le parti de Nicolas Metzdorf avait saisi la juridiction administrative au motif notamment que cette mesure du gouvernement n'avait fait l'objet d'aucun vote au Congrès et qu'elle ne respectait donc pas les termes de l'accord de Nouméa en matière de signes identitaires. Le 18 juillet dernier, le tribunal administratif a donné raison à Génération NC et a interdit au gouvernement de délivrer des permis de conduire comportant le drapeau du FLNKS. Et la décision du gouvernement, entérinée aujourd'hui en séance hebdomadaire, de faire appel de cette décision devant la Cour administrative de Paris ne change rien, explique Nina Jullier, porte-parole de Génération NC.
Le tribunal administratif, lorsqu'il a condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à retirer le drapeau du FLNKS des permis de conduire, a été très clair. La décision est tombée le 18 juillet et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait dû arrêter d'imprimer ses permis depuis cette date. Nous avons appris récemment que le gouvernement comptait faire appel, mais en aucun cas au tribunal administratif, l'appel est suspensif, c'est-à-dire que le gouvernement doit exécuter la décision du tribunal administratif.
La Génération NC constate toutefois que depuis le 18 juillet, date de la décision du tribunal, rien n'a changé et va donc signaler la situation au tribunal administratif.
Étant donné que la délivrance actuelle des permis de conduire avec le drapeau du FLNKS est illégale, nous invitons tous les Calédoniens à refuser évidemment de prendre ces permis et de nous en informer le plus tôt possible. Nous attendons maintenant de savoir comment le tribunal administratif va réagir et nous verrons ensuite comment nous pourrons poursuivre notre procédure en justice.
L'affaire n'est donc pas terminée, mais elle a déjà une conséquence directe. Tous les permis délivrés depuis le 18 juillet avec le drapeau du FLNKS ne sont pas valables au regard du droit administratif. Seuls ceux délivrés avant cette date peuvent être conservés car le tribunal n'avait pas ordonné leur retrait ni leur échange.
Ce matin, le gouvernement a également adopté la décision modificative numéro 4 du budget principal. Il s'agit d'intégrer l'enveloppe d'1 million d'euros, soit près de 120 millions de francs octroyés par l'Union européenne. Elle avait été sollicitée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette aide est fléchée puisqu'elle est destinée à renforcer les mesures liées au maintien de la transition énergétique et à la réduction de la fracture énergétique. Sur ce sujet, le gouvernement prévoit la création d'une aide énergie exceptionnelle pour les personnes en situation de précarité, c'est-à-dire celles qui ont perdu leur emploi après les émeutes. Cette aide consiste à la prise en charge de la facture d'électricité pour ces personnes dans la limite de 5 000 francs par mois et pour une durée de 4 mois. La journée internationale des peuples autochtones sera célébrée à Nouméa vendredi, place du Mouaka. Cette journée a été créée en 1994 par l'Organisation des Nations Unies. Sur le territoire, elle sera relayée par plusieurs mouvements indépendantistes tels que le Conseil des Grands Chefs Inatnekanaki ou le MNIS en présence de membres de la CCAT et de représentants du Sénat coutumier. Pour Sylvestre Néwédou, président du comité des 150 ans, cette journée sera surtout l'occasion d'un bilan de la situation en Nouvelle-Calédonie après cette semaine d'émeutes.
Les fonds de la cuvette, là, donc c'est une situation qui impacte tout le monde. Monde Kanak, et puis tout le reste du pays. Donc, comment on peut faire ensemble pour stopper des choses, arrêter, et puis reprendre la réflexion qui permet de créer peut-être autrement, faire autrement les choses, politiquement, mais économiquement aussi. Mais ça peut se faire peut-être dans un large mouvement de réflexion qui permet de prendre en compte tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais des fois, il ne manque pas grand-chose pour que les choses s'aplanissent. Peut-être qu'il faut que nos responsables descendent d'un cran pour qu'ils soient visibles et qu'ils soient audibles. Des fois, c'est ça. Quoi.
C'est une journée à laquelle participeront également des représentantes du mouvement international féministe Marche mondiale des femmes. Se déroulera donc place du Mouaka ce vendredi 9 août. 17h55, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On parlera d'abord des commerces du centre-ville. On se retrouve après une courte page de pub.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Info soir, Isabelle Pelletier.
Vers une redynamisation du centre-ville, les commerces du centre de Nouméa ont été épargnés par les exactions de ces derniers mois. Il n'en fallait pas plus pour que les clients qui avaient déserté ces boutiques reviennent tout doucement, Léana Colombo.
Cela faisait longtemps que les rues du centre-ville de Nouméa n'avaient pas été aussi animées. Période de vacances scolaires oblige, des familles entières se déplacent dans les commerces à la recherche de nouveaux vêtements ou tout simplement pour prendre l'air. Du côté des commerçants, tous sont quasiment unanimes. Les clients reviennent et achètent. Et la nouveauté vient surtout du fait que les gens arrivent de tout le Grand Nouméa, explique Tiffany, vendeuse chez Jennifer.
J'ai les clientes de Mondor qui descendent, qui prennent les navettes tôt le matin pour venir. Donc oui, c'est un petit peu de partout et j'ai même des personnes du Nord des fois quand elles peuvent passer qui viennent. Pour le moment, vu que c'est les vacances, le centre-ville se redynamise bien. Il y a un peu plus de fréquentation. Les clientes jouent le jeu et ça leur fait du bien aussi parce qu'avec tout ce qui s'est passé, elles ont besoin de voir autre chose et de reprendre une vie à peu près normale.
Une sorte de bulle d'air et de retour à la normale que plébiscitent les clients qui n'hésitent pas à prendre leur journée pour faire le tour des magasins.
C'est très pratique de tout faire à pied. Le centre-ville, c'est un endroit qui est très bien, très calme. On a un grand jardin, le bord de la mer, des restaurants, etc. On a beaucoup de choses au centre-ville.
Je suis venu balader un peu, changer d'air. Ouais, il y a du choix quand même. Bon, il manque un peu des choses, mais sinon ça va.
J'aimerais un peu plus de choix.
Un peu plus de magasins de marque. Nike, ou c'est que Nike, Adidas et tout.
C'est pour faire sortir les enfants un peu. Et c'est les vacances.
Et Ronan Délé, le président du syndicat des commerçants Nouvelle-Calédonie, note également un changement d'habitude de consommation de la part des clients depuis le 13 mai.
On remarque que les achats sur Internet déjà ne se font plus car les gens peinent à être livrés depuis l'étranger à cause des problèmes aériens que l'on connaît. Ensuite, effectivement, avec la destruction de commerces, de nouveaux clients se sont rabattus sur les commerces qui restent encore debout et qui ont de la marchandise à proposer. Donc en fait, c'est un mélange un petit peu de tout cela qui fait que le centre-ville, a priori, a pu tirer son épingle du jeu, si l'on peut dire, de la situation chaotique que l'on connaît.
Mais malgré ce regain de clients, les commerçants voient cette situation comme temporaire. Ils restent toujours inquiets quant à un retour des exactions qui pourraient cette fois-ci toucher le centre-ville.
La commune de Païta, à nouveau victime d'exactions. Le monument aux morts a une nouvelle fois été dégradé. C'est la troisième fois que le site est touché depuis le début des émeutes le 13 mai dernier. Et cette fois, les dommages sont particulièrement lourds. Les précisions d'Antoine Romain, le directeur de cabinet du maire de Païta.
La période qu'on vient de passer était relativement calme. On signale malgré tout une nouvelle fois, et c'est extrêmement regrettable, et ça nous met très très en colère à Païta, de nouvelles exactions au niveau du monument aux morts de notre commune. C'est la troisième fois en deux mois que ce site est dégradé, fortement dégradé cette fois-ci par des individus sans foi ni loi. Donc effectivement, après l'incendie qui avait ravagé les bâtiments qui se situent à côté de ce site, et notamment celui qui hébergeait les anciens combattants, cette fois-ci c'est le monument lui-même qui était dégradé, qui était profané, hein, avec des inscriptions, des stèles démontées, des stèles cassées au pied du monument aux morts. Alors évidemment, c'est extrêmement déplorable vu la portée symbolique de ce monument. Évidemment, on va remettre en place et remettre en œuvre et repeindre et repositionner tous les éléments qui ont été dégradés et puis le faire surveiller. Mais en fait, une nouvelle fois, c'est ce symbole qui a été pris à partie et pris pour cible, ce qui est absolument inacceptable.
La mairie a déposé plainte, une enquête a été ouverte. Malgré un relatif retour au calme, les habitants du quartier de Tuban affirment que leur sécurité n'est toujours pas assurée et relèvent une recrudescence de nouvelles exactions depuis le week-end dernier, Léana.
Oui, en ce milieu de matinée, le rond-point du collège de Tuban et de la poste de Nguéa, pavoisé de drapeaux indépendantistes, est encore jonché de bris de verre et de détritus. Un petit groupe de jeunes encagoulés traverse la rue. L'un d'eux tient un long bâton dans une main. Pour les gens du quartier, une petite quinzaine de personnes seulement, plutôt des adultes, est à l'initiative d'actions hostiles, mais elle est susceptible d'entraîner avec elle les jeunes en vacances scolaires. Insultes racistes sur les barrages de voisins vigilants du quartier et des quartiers voisins, caillassage et agression d'automobilistes lundi sur le bord de la route aux abords du collège et cette nuit incendie d'un véhicule. On écoute le témoignage de Pierre, un habitant du quartier.
Il n'y a pas vraiment un retour à la sécurité et pour preuve c'est qu'en journée on a encore des choses qui se passent parfois sur certains barrages avec des tentatives d'agression sur des barrages en journée et puis de nuit, on a aussi des exactions qui sont commises, moins fortes qu'avant, c'est vrai. Mais là, pendant les vacances scolaires, on a vu notamment en fait, la route qui est dégradée le matin systématiquement, remplie de bouts de verre sur le rond-point de Tuban, par exemple. Dans la nuit d'hier soir, il y a encore un véhicule qui a brûlé juste derrière le lotissement devant le collège Tuban. Aujourd'hui, passant en voiture, c'est devenu toujours une inquiétude. Donc bien sûr, on ne se fait pas caillasser à chaque fois, mais il peut y avoir des agitateurs, des personnes qui sont dans un état des fois un peu compliqué et qui passent avec les drapeaux et on a le droit à des insultes. Et la vie au quotidien est toujours compliquée. Bien sûr, on n'a plus les booms du soir et les explosions et les attaques des forces de l'ordre. En revanche, ça n'enlève rien au fait qu'on est toujours dans l'insécurité dans le quartier de Tuban.
Pierre fait partie des nombreux habitants de Tuban à avoir des enfants scolarisés au collège du quartier. Une reprise est envisagée pour le 20 août, mais ce retour des exactions fait craindre aux parents un abandon de cette décision.
Ce qui reste anxiogène aussi, c'est qu'on a envie, et depuis le début on le dit, que ce quartier reprenne vie. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des enfants scolarisés dans deux établissements qui sont fermés, que sont le collège de Tuban et l'école Champ-Moreau juste à côté, qu'on nous a garanti des ouvertures du collège et de l'école à partir du 19 août, enfin 20 août, une reprise pour les élèves, et qu'aujourd'hui, en fait, on s'inquiète d'une contre-décision qui nous imposerait à continuer un transport scolaire qui est inacceptable et puis un changement de vie pour nos enfants qui est très compliqué.
Lundi, un adolescent s'est fait racketter dans le quartier. Il s'est fait voler ses baskets par une bande de jeunes localisée au niveau de la poste de Nguéa. À Tuban, les habitants font part de leur ras-le-bol et s'interrogent. Pourquoi le collège de Caméré a-t-il pu rouvrir ses portes et que la même chose ne semble pas possible à Tuban ?
Près de trois mois après le début de l'insurrection, quel bilan en dresse la police nationale ? La situation à Nouméa est-elle normalisée ? Quelles ont été les actions de la police ? Reste-t-elle mobilisée ? Ce sont les questions que nous poserons demain à Anne-Gabrielle Guébélil, la directrice adjointe de la police nationale. Elle sera notre invitée du matin à 7h30. Et ça fait bientôt trois mois que les exactions ont débuté. La situation s'est plutôt calmée, mais les émeutes particulièrement violentes au début ont laissé des traces profondes, notamment sur le monde économique. Quel bilan économique et social peut-on dresser ? Quels sont les défis à relever ? Et comment est-ce que le monde économique s'est organisé ? Rendez-vous demain midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra la présidente du MEDEF, Mim Sidélé, le président de la CCI, David Guyenne, et celui de la FINC, Xavier Benoît.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, est-il selon vous justifié de fermer le collège de Rivière-Salée qui a été en grande partie détruit par les émeutes ? Si vous trouvez que c'est justifié, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 82% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent passionnés par les Jeux Olympiques de Paris alors que l'on est dans la dernière semaine de compétition. Ils sont 18% à ne pas partager cette passion. Il est 18h04, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On commencera avec la réouverture des parcs provinciaux zoologiques et forestiers et des grandes fougères. À tout de suite.
spécial info-jeu SMS sur RRB. Le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Et la réouverture ce mercredi de plusieurs infrastructures de la province sud destinées au grand public. C'est notamment le cas du parc zoologique et forestier à Nouméa qui accueille à nouveau les visiteurs depuis ce matin. Et ils étaient nombreux dès la réouverture. Le site était resté fermé au public depuis le début des émeutes. Les familles étaient heureuses de retrouver cet espace naturel.
C'est trop bien, tous les animaux.
Ah oui, on avait hâte, on attendait ça depuis longtemps. Donc là, au premier jour, on arrive aux premières heures pour redécouvrir le parc avec les enfants.
Ça fait du bien, hein, revenir se promener là-dedans, comme ça fait longtemps. Hein.
Pour faire promener les enfants, comme c'est les 2 semaines de vacances, donc ça fait une sortie en plus.
J'étais déjà venue, mais comme je me rappelle plus, comme ça fait longtemps, bah, je vais la revoir.
Justement, c'est lui qui nous a poussé à venir aujourd'hui.
Tous les animaux, le cagou.
Bah, c'est bien. Bah, les animaux.
Les pans.
Bah, aussi les ânes.
On a vu les pans.
Le pan, il a couru.
On profite de sa réouverture et on respire l'air frais, on voit les animaux, donc c'est plusieurs choses en un.
J'ai pas de mots pour décrire la joie que je ressens. Je suis une fidèle. Tous les jours, je faisais entre 7 et 8 km par jour. Et là, pendant 3 mois, ben, 0 km, quoi. C'est surtout l'endroit, quoi, je veux dire, la forêt, les animaux. Je pense que quand je suis rentrée, j'étais pas trop bien. Parce que j'avais appris, j'ai entendu des choses et tout. C'est découverte, je retrouve mes animaux. Madame l'autruche, qui me fait toujours sa danse, là, j'adore. Puis voir s'il y a l'ensemble des animaux, quoi.
Le parc forestier qui n'avait pas été épargné par les émeutiers avec des intrusions et la disparition de 8 animaux, 2 biches, 5 roussettes noires et une grue du Japon. Le parc des Grandes Fougères a également ouvert ses portes ce matin, l'occasion pour les visiteurs de vivre un moment d'évasion en famille ou entre amis au cœur de la nature et pour les aventuriers les plus téméraires de tester la nouveauté, le parcours Acrobranche des Grandes Fougères, les précisions de Bastien Morvan, directeur adjoint de la Direction du développement durable des territoires de la province sud.
Trouve à peu près le nombre de visiteurs moyens par jour, puisqu'on est à 28 personnes qui ont visité le parc lorsqu'on est à peu près 40 en moyenne, dont 12 qui ont pu profiter de la nouvelle activité au sein du parc provincial des Grandes Fougères, qui est l'Acrobranche. Donc c'est un démarrage qui, on l'espère, va augmenter au fil du temps.
Pour Bastien Morvan, le bilan de cette journée de réouverture est positif.
Le bilan est tout à fait positif. On espère que cela va se poursuivre et que les visiteurs vont affluer également dans les prochains jours. Globalement, sur les deux parcs, je pense que les visiteurs ont été au rendez-vous. Les équipes ont été satisfaites de pouvoir les accueillir à nouveau. On sentait que les usagers étaient vraiment satisfaits de pouvoir réaccéder à leur espace, que parmi eux, on a vraiment des habitués journaliers. On a senti vraiment beaucoup d'engouement pour cette réouverture. Le parc provincial zoologique et forestier a connu un grand succès puisqu'on est en moyenne à 220 visiteurs par jour à l'année. Et là, on a enregistré pour la journée d'aujourd'hui un score de 611 visiteurs. Alors, bien sûr, c'est un chiffre à comparer à la moyenne annuelle, donc c'est vrai que c'est représentatif au regard de cette période de vacances. On avait fait en sorte également d'avoir ce jour-là au parc zoologique et forestier des prestataires qui ont pu vendre des gaufres et des pizzas, et là aussi, ça a plutôt bien fonctionné.
Bastien Monvent, le directeur adjoint de la Direction du développement durable et des territoires de la province sud, répondait à Kélinda Boisco. Ces deux parcs provinciaux seront ouverts durant cette période de vacances scolaires du mercredi au dimanche de 9h à 16h. La Maison de la biodiversité propose de son côté pendant les vacances scolaires des activités pour les petits et leurs parents. Plusieurs ateliers qui permettent de faciliter l'accès au savoir et au savoir-faire simple lié aux enjeux climatiques et environnementaux. Sarah Mégery.
La Maison de la biodiversité a rouvert ses portes le 17 juillet. Elle accueille de nombreux animateurs issus de plusieurs structures qui ont entièrement été détruites pendant les émeutes. Une manière pour ces artistes de mettre leurs compétences au service du public. C'est le cas de Noémie Ouameau qui a proposé tout au long de la journée la lecture d'un conte pour enfants sur le thème de la nature. Jessie, 3 ans, et son papa Steve étaient présents pour profiter de cette journée.
Aujourd'hui, on a partagé plus des animations relatives avec le camp de nature. Donc, on a eu 3 petites familles qui se sont réunies dans un endroit assez intimiste qu'on a préparé pour raconter le cagou, l'animal emblématique de la Nouvelle-Calédonie.
Il ne vole pas.
On est passé la semaine dernière, puis voilà, les animatrices ici nous ont proposé de venir pendant les 15 jours. Là. Je pense amener tous les jours pour occuper mon fils. Il est tout seul aussi. Ça permet aussi de voir d'autres enfants.
D'autres ateliers, notamment proposés aux enfants, ont également attiré la curiosité des plus grands. Caroline Bernard est animatrice socio-éducative pour la ville de Nouméa. Elle propose un atelier papier recyclé.
C'est juste un travail un peu de patience et prendre le temps de faire les choses. Donc ça tombe bien, c'est les vacances.
Ah ok, d'accord, bah écoute, chez moi tout ce qui est papier, je jette dans le compost.
Ah ben voilà. Compost c'est bien aussi, mais on peut réutiliser pour faire d'autres choses.
J'ai pas trop le temps de faire d'autres choses, donc j'aime pas mettre à la poubelle.
Là, je suis en train de préparer la matière. Donc, j'ai déchiqueté du papier que je vais laisser tremper pendant un bon moment pour le ramollir. Donc là, c'est des feuilles de catalogue. À côté de moi, j'ai des feuilles de journaux. Et à côté de moi, j'ai encore une autre, ça veut dire, remplie de feuilles de brouillon. Donc, l'intérêt, c'est de leur montrer les différents types de papier et ce qu'ils peuvent en faire. Après, on passe le tout, on fait une mixture, on passe le tout dans un tamis. Et de ce tamis, une fois qu'on a laissé sécher le tout, on récupère une feuille en papier. Papiers recyclés qui peuvent servir à la confection de petites cartes pour souhaiter des vœux, des petits carnets. Il y a multiples réutilisations derrière.
Des animations sont proposées du mardi au vendredi de 9h à 17h au parc urbain de Sainte-Marie. Toutes les activités sont gratuites. Certaines nécessitent une inscription préalable. Notez que la Maison de la biodiversité sera fermée du 15 au 19 août inclus.
L'année scolaire, de nombreux étudiants ont été perturbés depuis le 13 mai. C'est le cas des élèves de l'EGC Business School. La promotion 2026 a débuté son bachelor en février, mais a dû vite continuer sa formation en distanciel. Ce matin, une rencontre avait lieu entre les 49 élèves et le nouveau parrain de la formation, la Banque de Nouvelle-Calédonie. L'occasion de se retrouver, mais également de rencontrer le partenaire et de découvrir son rôle au cours de ces 3 années d'accompagnement. On écoute les précisions de David Leclerc, directeur de l'EGC.
Ce parrainage, il prend place chaque année sur le suivi d'une promo. Donc la BNC, en fait, va accompagner les étudiants pendant les 3 années du cursus. Ça permet, 1, de créer des liens avec une entreprise, 2, de connaître les métiers de cette entreprise, en l'occurrence pour la BNC, les métiers de la banque, et 3, de pouvoir travailler en étroite relation pendant ces 3 années sur différents projets, que ce soit des projets de la BNC, mais que ce soit aussi des projets de l'EGC, voire de la CCI, que les étudiants participent à des événements organisés par la BNC elle-même.
Il était présent pour signer la convention de parrainage Régis Buquet, secrétaire général de la BNC, David Guyenne, président de la CCI, et Pierre Kolb, président de l'association Alumni Business Network. Et nous ouvrons maintenant tout de suite nos pages spéciales Jeux Olympiques.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
On approche petit à petit de la fin des JO et le camp français peut encore espérer décrocher des médailles, même si la journée d'hier et pour la première fois de la compétition a été une journée blanche, Jean-François Baudin.
Oui, mais la compétition n'est en effet pas terminée encore et parmi les médailles possibles, celle que Bassam Aouem, cadre technique de la Ligue d'escalade de Nouvelle-Calédonie, tentera de décrocher. La nuit dernière pour nous, il a réussi à se qualifier pour la finale avec le 8e et dernier temps, mais tout est encore possible pour cette finale qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous. Autre médaille, et pourquoi pas des cette nuit en boxe. Le français Sofiane Oumounia dispute en effet la finale des moins de 63 kilos. Parmi les autres rendez-vous à suivre de cette journée olympique qui vient de commencer, des sports collectifs, notamment dès 22h30, le quart de finale messieurs de handball entre la France et l'Italie. Un peu plus tard, une autre équipe de France tentera de franchir la dernière marche vers une médaille assurée, l'équipe de volley qui affronte l'Italie en demi-finale du tournoi olympique. Les frères Lebrun vont eux tenter de se qualifier aussi pour des demi-finales, celles du tournoi en double de tennis de table. Les deux Français seront opposés à une paire brésilienne. Pour le reste, la délégation française tentera de briller sur le canoë-kayak sprint, en taekwondo ou encore en athlétisme et en boxe.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Olivier qui habite Robinson qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. Nous vous demandions lequel de ces perchistes français n'avait jamais été champion olympique. Vous aviez le choix entre Jean Galfione, Thierry Vigneron et Pierre Quinon. La bonne réponse était Thierry Vigneron. Il a décroché une médaille mais en bronze lors des JO de Los Angeles en 1984. Cette même année, c'est Pierre Quinon qui avait décroché l'or. Jean Galfione a lui été champion olympique à la perche en 1996 à Atlanta. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB. Il est 19h15, nous sommes presque arrivés au terme de ce journal et on va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et donc 18h16, c'est la météo avec vous Nicolas.
Oui, alors cette nuit, les nuages seront omniprésents et donneront toujours quelques averses sur la façade est et la pointe sud. Le vent s'orientera au secteur est entre 15 et 20 nœuds, localement 20 à 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Ce sera sur l'extrême nord. Il mollira entre 10 et 15 nœuds sur l'ouest. Les températures minimales resteront localement fraîches de 15 à 20 degrés jusqu'à 13 degrés. Ce sera sur l'ouest. Demain matin, le ciel sera très nuageux à couvert avec quelques averses qui impacteront l'ouest et le sud. De petites éclaircies seront possibles au Loyauté. Le vent d'est sera compris entre 10 et 15 nœuds, localement autour de 10 nœuds sur l'ouest et de 15 à 20 nœuds sur le nord des Loyautés et la pointe nord, Isabelle.
Merci Nicolas pour la météo et pour la technique. C'est la fin de ce journal.